Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Le Seigneur dispose maintenant ton cœur. Que les bruits du dehors, que la distraction, que l'incrédulité, que le doute ne viennent pas faire obstacle à la parole de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur dispose l'atmosphère de ton cœur afin de recevoir favorablement cette parole. Que l'Esprit de Dieu m'inspire, qu'il prenne le contrôle entièrement. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi et donne la parole qui vient de ton royaume, qui vient de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur comme des champions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, au verset 18. Il est dit, « Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui était fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un passage que nous connaissons. Jésus-Christ avec ses disciples qui sont dans le marché. Et Jésus voit un arbre, un figuier, duquel il attend un fruit. Il va chercher le fruit, il ne voit rien, et Jésus prononce une parole sur l'arbre, et la Bible dit que le figuier a séché. Alors immédiatement, les disciples étaient étonnés de ce qui s'était passé, et puis Jésus leur a dit, « Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi. » Amen. Jésus dit à ses disciples que ce qu'il vient de faire, ils sont capables de le faire à nouveau. Ce que Jésus venait de faire était un miracle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tout le temps de son ministère avec les apôtres, Jésus a fait comprendre à ses serviteurs, aux apôtres, que ce qu'il faisait, lui, Jésus, ce qu'il était en train de faire, eux aussi, ils étaient capables de faire de même. Alléluia. Et je me suis donc rendu compte que une chose qui détermine notre connaissance ou bien notre aptitude, notre capacité à poser des actes ou à faire des prodiges est notre identité. Amen. Ce que je crois que je suis détermine aussi mon niveau de foi. Amen. Ce que je crois que je suis détermine directement mon niveau de foi. Pour les disciples, ce que Jésus était en train de faire était exceptionnel parce qu'ils se voyaient simplement dans la peau d'hommes normaux. Amen. Pour eux, ils sont des hommes, ils sont comme tout le monde. Ils ne peuvent pas marcher sur les eaux, ils ne peuvent pas assécher un figuier, ils ne peuvent pas, ils sont pas capables de réaliser de telles choses. Alléluia. Alléluia. Donc ton identité détermine aussi ton niveau de foi. Tu sais que, par exemple, tu n'es pas encore habillé, mais tu n'es pas policier. Tu vas pas aller t'arrêter avec un sifflet au bord de la route et puis essayer d'arrêter la voiture. Tout simplement parce que tu n'identifies pas à la voiture. C'est que si tu t'arrêtes et que tu vas arrêter la voiture va te ramasser. Parce que la voiture ne te reconnaît pas, le chauffeur te reconnaît pas, on sait pas qui tu es. Et toi-même, si tu n'as pas cette identité-là, tu n'es pas capable, n'est-ce pas, l'identité du policier, d'arrêter cela. Donc, l'identité même, connaître son identité, ça te permet aussi de connaître son autorité. Alléluia. Ça permet de connaître son autorité. Autrement dit, si je suis dans une maison et que moi-même je ne suis pas conscient que je suis la patronne de la maison, alors je ne demanderai pas aux serviteurs et aux servantes qui sont dans la maison, faites ceci, faites cela. Si j'arrive dans la maison et que moi-même dans ma propre maison, dans mon propre domicile, je me considère comme un serviteur, je ne vais pas utiliser l'autorité parce que je m'identifie comme un serviteur. Alléluia. Dès l'instant où je m'identifie comme étant le patron, Je sais que je peux dire ceci, je sais que je peux dire cela, et les gens vont écouter. Amen. On peut venir dire à une personne, monsieur, vous êtes effectivement le patron. Mais si toi-même tu ne crois pas, la façon dont tu vas parler aux personnes, la façon dont tu t'identifies va déterminer la façon avec laquelle tu vas leur parler, avec beaucoup d'hésitation. Tu as peur qu'ils ne t'écoutent pas. Tu te demandes en fait, en leur donnant un ordre, est-ce que même ils savent que je suis le nouveau patron? Est-ce qu'ils savent cela? Jésus est en train de dire que cet arbre-là, il est en train de sécher pendant que je parle avec autorité, tout simplement parce que l'arbre sait que je suis son créateur. Amen. L'arbre sait que je suis son créateur, donc si je lui dis, tu arrêtes de vivre, il dit, patron, il n'y a pas de problème. Jésus disait à ses disciples qu'ils n'avaient pas à avoir peur de la mer qui se levait, des vagues qui sifflaient, pendant qu'ils étaient dans la barque et lui, Jésus dormait. Il a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Parce que la nature sait qui moi je suis. Mais pourquoi Jésus a laissé ses disciples éveillés pendant que lui était endormi face au danger? Tout simplement parce que les disciples même étaient capables eux aussi d'arrêter la mer. Ils pouvaient aussi arrêter la mer. C'est ce que Christ leur a dit ici. Il a dit, vous aussi, ce que je viens de faire, vous aussi, vous êtes capables de le faire. Amen. Il dit, mais tout est une fonction de foi. Le dimanche, nous sommes en train de parler de la foi peut-être pour obtenir. Amen. Mais il y a aussi une foi qui détermine ce que tu es. Alléluia. Ça veut dire, eux-mêmes, Jésus leur disait, vous pouvez le faire, mais ils ne le croyaient pas fortement. Ils étaient impressionnés de voir des démons, impressionnés de voir certaines circonstances, parce que profondément dans leur cœur, ils n'arrivaient pas à accepter l'identité dont le Seigneur leur parlait. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit la dernière fois, depuis que nous avons commencé ce séminaire, que nous sommes des êtres divins. Lorsque Jésus a dit ça aux hommes, les gens ont pris des pierres et se sont mis à le lapider. Et c'est la même attitude que nous avons aujourd'hui. Je sais que j'ai entendu, il y en a qui disent, on dit que Pasteur Sanogo dit que maintenant l'homme est Dieu. Amen. Mais l'homme n'est pas le Dieu créateur. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Mais étant donné que nous sommes sortis de lui, nous sommes des êtres divins. Et étant donné que nous sommes sortis de lui, il dépose en nous donc les mêmes capacités. C'est un don qu'il nous a donné. C'est pas quelque chose que nous méritons ou que nous avons acheté. Amen. Alléluia. Et le but du diable, c'est de te donner une autre identité, parce que Satan est convaincu que si dans ton esprit, tu as une mauvaise perception de toi, n'est-ce pas, la perception que tu as de toi va déterminer ta façon de marcher. Quand dans ta tête, tu penses que tu es un esclave, tu as une manière de marcher. Quand dans ton esprit, tu te dis que tu es un patron, il y a une façon aussi avec laquelle tu marches. Tout dépend de qui tu crois que tu es. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu as une mauvaise perception de toi, n'est-ce pas? Tu agis en fonction de cette mauvaise perception. Ce que tu crois de toi détermine ton action. Tu peux dire dans ta bouche, je ne suis pas ceci, juste pour proclamer. Mais nous avons étudié donc le dimanche dernier que tout est une affaire de pensée. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez voir par exemple que même la sanctification vient aussi de l'identité. Une femme par exemple qui se voit comme quelqu'un de moins cher, qui n'a pas trop de valeur, n'est-ce pas? Quand vous voyez une fille qui se laisse facilement aller avec les hommes, tu viens de la drague 2 jours, elle couche avec la personne, elle-même, elle se juge comment? Elle ne se donne pas de valeur. Elle se dit, moi-même, dans la vie, même, je n'y fais rien. C'est-à-dire, même si dans sa bouche, même si par les tenues qu'elle porte, elle se donne une certaine galanterie, elle a une mauvaise image d'elle-même. Et elle se dit que toute personne qui me drague, je parle avec cette personne-là. C'est une mauvaise perception qu'elle a d'elle-même. L'identité, l'image que tu as de toi, détermine les résultats que tu auras, détermine tes attitudes, l'image que tu as de toi, détermine tes fréquentations. Alléluia. Tu peux beau proclamer, je suis chrétien. Mais si toi-même dans ton esprit profondément, tu penses païen, tu te vois païen, tu seras pas à l'aise avec les fils de Dieu. Tu seras à l'aise avec les inconvertis. Quand tu te trouves au milieu d'eux, tu es à l'aise parce que c'est fonction à l'identité, du moins à la perception que toi-même tu as de toi. Alléluia. Alléluia. Alors ce dont nous sommes étudiés, c'est la notion de l'identité. Dimanche dernier, nous parlons de l'espérance, de la foi, nous avons dit que ces choses-là se passent d'abord dans notre pensée. Parce que la foi commence par l'espérance. La foi commence par ce que je crois, ce que j'espère et ce que j'attends. C'est là qu'on parle de foi. Amen. Dimanche, nous insistons beaucoup plus sur la foi pour obtenir certaines choses. Amen. Mais avant de penser à la foi pour obtenir certaines choses, il faut comprendre la foi de qui tu es. Alléluia. C'est pour ce même problème d'identité que, vous savez, lorsque Satan est venu attaquer Jésus, la première tentation de Jésus, ce n'était pas une affaire de possession. C'était une tentation sur son identité. Il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, dis ceci. Ça veut dire, il va amener Jésus-Christ à douter qu'il est le Fils de Dieu. Parce que dès l'instant, si Jésus-Christ arrivait à douter de son identité, il n'y a plus de prodige. Satan n'est pas venu tenter Jésus pour dire combien impudicité, combien adultère. Ça sont les tentations qu'on donne. Vous comprenez, non? Mais la véritable première tentation, la tentation que le diable amène souvent, c'est le sexe, l'argent, des trucs comme ça. Mais la véritable tentation, la première grande tentation que Satan adresse à un enfant de Dieu, c'est celle de l'identité. Alléluia. Alléluia. Il vient, il dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, autrement dit, il veut amener le Christ à douter. Amen. Mon ami le pasteur Cassano, dans un enseignement, il cite ces choses. Il dit par exemple, juste pour présenter, combien de personnes on vient, la femme vient s'arrêter devant lui. Si tu es vraiment un homme, gifle-moi. Si tu es un homme, gifle-moi. Lui aussi, il gifle. C'est qu'il n'est pas sûr qu'il est un homme. Est-ce que tu as besoin de frapper quelqu'un pour prouver que... Alléluia. On dit, si tu es garçon aujourd'hui là, si tu es garçon, faut parler. Si tu es garçon, et maintenant toi-même pour prouver que tu es garçon, je vais te montrer ce que tu as un problème. C'est que toi, tu ne sais pas que tu es un garçon. Alléluia. Alléluia. Le premier problème des hommes, c'est d'abord un problème d'identité. C'est suite à ce problème-là qu'ils se livrent à des péchés. C'est par rapport à l'identité que vous avez de vous-même que peuvent persister dans la vie de certaines personnes des péchés, ce qu'on appelle des liens. C'est par rapport à l'identité. Tu peux beau proclamer, tu peux dire beaucoup de choses, mais si tu t'identifies mal, si tu as une mauvaise image de toi, si tu te vois comme un pécheur, comme on dit, c'est vrai, on reconnaît qu'on était dans le péché, Christ nous a pardonné. Mais si tu t'identifies constamment dans ton esprit comme un pauvre pécheur, mais il faut que tu sois un pauvre pécheur. Et donc tu vas pécher tous les jours pour demeurer dans cette identité à laquelle tu crois. C'est toujours la même histoire de foi. C'est ce que tu crois. Ça veut dire, nous pouvons dire dans notre bouche, nous croyons que Jésus-Christ nous a rachetés. Nous disons ça de notre lèvre. Mais notre corps, notre attitude démontre constamment le contraire. Comment est-ce que tu t'identifies? Alléluia. Comment est-ce que tu t'identifies? L'identité que tu te donnes va déterminer tes actions, tes actes, tes paroles, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Comme j'ai le lieutenant Ange devant moi là, ça me fait penser à l'armée. Je pense que à l'armée, quand tu arrives, on va te faire savoir que tu es militaire d'abord. On va bien te frapper. On va te prouver. C'est-à-dire que leur premier acte, quand tu rentres à l'armée, pas la Bible dit que Dieu est l'éternel des armées. Parce que dans l'armée, vous trouvez beaucoup de principes divins. C'est-à-dire que quand tu rentres, il faut que tu comprennes que là, tu n'es plus un civil. On va te faire comprendre. Et pour que tu comprennes ça là, on doit te frapper. On doit te faire faire des choses. Quand tu regardes, tu dis, mais on les maltraite. C'est ça le brisement du moi. On va te broyer. De sorte qu'à un moment donné, en tout cas, un bon militaire qui a été broyé, quelquefois même il ne reconnaît plus ses parents. Si on lui dit, va ici, il s'en va. Parce qu'on lui a donné une certaine identité. Et ça détermine sa façon, ça détermine ses réactions, ça détermine son comportement au milieu des autres. Ça détermine beaucoup de choses. L'identité. Dis avec moi l'identité. Alors, nous avons pris pour histoire, pour illustrer l'identité, nous sommes basés donc sur l'histoire d'Abraham. Lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie, ce qu'il cherche à faire d'abord, c'est restaurer notre identité, la véritable identité que nous avions avant la fondation du monde. Cette identité-là dont il est question. Alléluia. Vous allez voir que lorsque ces choses-là vont pleinement entrer dans votre cœur, lorsque vous allez pleinement les accepter, ça va déterminer la manière dont vous parlez, ça va déterminer vos attitudes, ça va déterminer votre autorité. Pourquoi la peur? D'où vient la peur? La peur est un problème d'identité. Si tu vois un chien qui vient te poursuivre, parce que toi-même tu sais que tu es un homme qu'un chien peut mordre. Donc, en fonction de ça, tu fuis. Mais quand tu t'arrêtes devant les chiens et que tu crois que, ou toi tu es un homme, tu peux le chicoter, le chien même recule. En tout cas, moi, quand j'ai compris ça, il y a des chiens qui me voulaient me poursuivre. Mais quand un chien, tu t'élèves, je m'arrête. Et puis j'ai dit, tellement je le regarde avec, celui des yeux, mais d'une telle assurance. Le chien même se pose deux questions. Il dit, ce gars-là, attention, André me veut du mal. Mais ça ne vous est jamais arrivé. Alléluia. Alléluia. Alors donc, Dieu, avec Abraham, va l'amener dans un processus. Donc, avant de lui donner la terre en possession, avant d'engendrer la destinée, ou bien les enfants de la promesse dans la vie d'Abraham, Dieu va lui demander de quitter certaines situations, certaines circonstances qui avaient déterminé ou qui lui avaient donné sa première identité. Donc, le processus par lequel Abraham va passer, quand Dieu va lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte la maison de ton père, Dieu est en train quitte pour aller dans le pays vers lequel je vais te donner, Dieu était en train d'enlever d'Abraham la première identité qu'il avait de lui-même, afin qu'il puisse comprendre qu'il est de Dieu, qu'il est sorti de Dieu. Alléluia. Alléluia. Car il faut savoir, le doute et l'incrédulité viennent des limites que notre corps nous donne. J'ai beau dire dans les enseignements, tout est possible à celui qui croit. Mais tant que tu ne vas pas résoudre le problème d'identité, il te sera difficile de croire que tout est possible. Tu vas le dire de ta bouche, mais tu ne peux pas accepter parce que tu te juges par rapport à ton corps physique. Tu te juges par rapport aux capacités. Tu ne crois pas que là où tu es, là. Pendant que je parle, si tu parles à un manguier qui est chez toi à la maison, le manguier va sécher. Tu vois, pour toi, pour parler au manguier, pour qu'il sèche, il faut être trop spirituel. Alléluia. C'est-à-dire, il faut faire des jeûnes de 40 jours. J'ai vu des hommes qui ont fait des jeûnes de 40 jours, même plus, mais qui sont même pas arrivés par la foi à faire un prodige et un miracle. Tout simplement parce que pendant le même temps de jeûne, ils n'arrivent pas à comprendre qui ils sont. Ils croient que c'est une affaire d'acquérir d'abord une puissance. Ce n'est pas un problème d'acquérir une puissance, c'est d'abord qui tu es. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne sais pas qui tu es, la nature ne va pas te respecter. Pour cela, donc, Dieu va demander à Abraham de quitter d'abord son pays. Et j'expliquais que le pays est la première chose qui nous donne une identité. Amen. Vous avez votre pièce d'identité, sortez vos cartes d'identité. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va faire des exercices. Quand vous regardez la pièce d'identité, en tout cas, la première des choses, avant même de donner votre nom, parce que l'identité, c'est le nom que tu te donnes. Mais dans un nom, le nom est plus profond, ce n'est pas simplement l'interpellation qu'on te donne lorsqu'on veut t'attirer. Un nom donne une certaine identité. Et pour Dieu, c'est très important. C'est pourquoi le Seigneur avait l'habitude, lorsqu'il marchait avec certaines personnes, de changer leur nom. C'était pas la prononciation même qui était le problème. C'était juste lui donner une identité. Amen. Une identité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la perception que tu as de toi-même. Qui tu crois que tu es. Alléluia. 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 Je vous ai demandé de venir avec un cahier pour faire un exercice. Premier exercice. Mettez un. Répondez à la question sincèrement, hein, sans faire des proclamations. Qui es-tu? Je ne veux pas de slogan. Je suis fille de Dieu. Je veux que tu regardes au fond de toi. Et quand tu te poses la question qui tu es, là, que tu écrives ce qui vient dans ton cœur en premier réflexe. Qui es-tu? Et je veux que tu prennes l'occasion, le temps de réfléchir à qui es-tu. Il ne faut pas proclamer. Je suis fille de l'Éternel. Le Dieu vivant est mon Seigneur. Oh, oh, oh. Nous sommes en train de parler des pensées. Je veux que tu laisses ta pensée te donner une réponse. Je veux que tu sentes ce à quoi tu penses. Qui es-tu? Tu peux fermer les yeux pour réfléchir. Qui je suis? Qui suis-je? Et réfléchis, pense. Et puis si tu as trouvé la réponse, il faut écrire. Amen. Compte tenu du temps, quand tu rentres à la maison, s'il te plaît, prends le temps de faire ces exercices. Tu as écrit quelque chose? Toi, qui tu es? Fils de Dieu, toi qui tu es? Une rachetée. Profondément, c'est ça, tu vois. Alléluia. Nicole, enfant de Dieu. Tu vois? C'est bien. Mais quand tu te vois enfant de Dieu, tu sais que vous allez me dire c'est juste. C'est vrai que c'est juste. Mais si je me vois dans ma tête enfant de Dieu, mais sans vous en rendre compte, un enfant ne profite pas de tout l'héritage. Si je m'identifie comme étant enfant de Dieu, sans m'en rendre compte, j'ai une tendance toujours à être sous tutelle. C'est-à-dire, pour certains sujets, franchement, j'ai besoin que le pasteur prie pour moi. Quand dans ma tête je me vois enfant, j'ai besoin d'avoir un papa spirituel. En tout cas, il faut qu'il intervienne dans ma vie. J'appartiens à Dieu, mais je suis enfant. Vous comprenez, non? Donc, quelqu'un qui, dans sa tête, se voit déjà simplement enfant de Dieu, sans qu'il s'en rende compte, il a une façon de marcher, il a une manière de se comporter, il a une manière, il a un certain rapport qu'il a avec ses pasteurs, avec les autres. Il se considère comme étant un enfant. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il arrive à l'église, c'est quelqu'un qui attend à être assisté. Donc, vous avez beau lui dire, viens t'impliquer dans un département, il ne peut pas s'impliquer, parce que lui, il est un enfant, et c'est de lui on doit s'occuper. Donc, dans sa tête, étant donné qu'il est un enfant, quand même il rentrera dans un département, il ne tiendra pas longtemps dans ce département, parce qu'en fait, même en rentrant dans le département, il attendait que le responsable du département lui donne un encadrement spécial. Il s'attend à ce qu'on l'appelle pour demander comment est-ce qu'il a dormi la nuit. Est-ce que tu as prié? Si quelqu'un arrive avec une mentalité d'enfant, si on l'a pas salué, si on ne lui a pas manifesté de l'affection, après qu'il t'église, il dit, je m'en cherche un autre papa. Ici, là, vraiment, on s'occupe pas des gens. Bon, pourquoi on va s'occuper de toi? Tu dis, non, mais c'est le rôle de l'église. Mais pourquoi, toi, tu n'entres pas dans la mentalité de celui qui doit s'occuper des autres? C'est-à-dire, commencer, parce que ça fait quand même 10 ans que tu es chrétien. Pourquoi, quand tu arrives à l'église, tu dis, hey, je suis arrivé à l'église, les frères ne me saluent même pas. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pas toi qui salues le premier. Le frère qui ne te salue pas là, c'est pas un frère comme toi. Parce que de la même manière que toi, tu n'es pas parti, tu dis, quand j'arrive ici, les gens ne sourient même pas avec moi. Mais de la même manière que celui qui est à côté ne t'a pas souri, toi aussi tu ne lui as pas souri. Donc lui aussi, tu sais pas aussi, si dans sa tête il se voit un enfant, il va dire, là il me sourit même pas. Toi aussi tu le regardes, il me sourit même pas. Lui aussi te regarde, dans l'église même il n'y a pas d'amour. Ma voisine ne manifeste pas d'amour. La voisine aussi, le voisin, il ne manifeste pas d'amour. Tout est une affaire d'identité. Qui es-tu? Comment est-ce que tu te vois? Si je veux encore approfondir la question, comment est-ce que tu te vois? Rentre chez toi et puis prends le temps de répondre et laisse Dieu t'aider à répondre. Alors tu vas te rendre compte que des réponses qui sortiront de ton être intérieur sortiront en même temps tes limites, ton pouvoir, et tu vas te rendre compte que ça détermine tes capacités. Si tu te détermines, tu te vois profondément comme étant un chrétien encore charnel, c'est pourquoi tu es en train de marcher dans la chair et que tu es le premier à tomber dans les péchés, parce que tu t'identifies ainsi. Amen. Alors je vous disais donc de prendre votre carte d'identité, votre pièce d'identité ou bien votre attestation, en tout cas un élément d'identité. Vous allez vous rendre compte que ça, c'est une carte d'identité. Ça veut dire, elle est censée contenir les éléments qui m'identifient moi. Si vous les avez, il n'y a pas deux personnes comme ça qui ont tous ces éléments-là réunis. Mon identité, ce n'est pas seulement Mohamed. Parce que si on me dit Mohamed, il y a beaucoup de Mohamed. Donc, le terme Mohamed ne m'identifie pas seulement. Vous me suivez? Il y a d'autres noms qui sont ajoutés qui font que, par exemple, lorsqu'on m'a dit Sanogo, Mohamed, Yérénia. Ah, vous connaissez pas mon nom Yérénia, là? Je m'appelle Yérénia, Yérénia. Yérénia, ça veut dire, avant de changer les autres, change-toi d'abord. Transforme-toi d'abord, mon ami. C'est un nom prophétique. Mais avant même mon prénom et mon nom, parce que le nom qui est là, mes parents me l'ont donné. Pas d'abord d'eux-mêmes. Quand on m'appelle Sanogo. Sanogo, ça vient de mon père. Mais ça vient du fait aussi que mon père est dans un pays donné. Ou bien dans une nation donnée, dans un ethnos. Comme il est dans la nation peut-être musulmane, et on est sénoufo, votre nom de famille, ça vient de votre pays. Vous comprenez, non? Dès qu'on dit ton nom de famille, on sait en même temps de quel pays tu es. C'est pas ça? Voilà. Alors même, c'est pourquoi, avant, c'est-à-dire, nous, en Côte d'Ivoire, on dit d'abord ton nom avant de dire le prénom. Dans les pays, la réalité, c'est pratique. Dans les pays occidentaux, pourquoi on dit prénom? Prénom, ça veut dire avant le nom. Donc, normalement, on doit dire le prénom. Parce qu'en fait, ces pays-là, ils disent prénom avant le nom parce que pour eux, vous allez vous rendre compte, en France et dans certains pays, l'individu est plus important que la famille. Donc, on doit dire d'abord son prénom. C'est pourquoi on dit même prénom. On doit dire son prénom avant son nom. Ce qui amène les personnes, les enfants par exemple, à ne pas respecter leurs parents. Je vais vous montrer combien de fois votre identité détermine vos actions. Vous allez voir que dans des pays comme l'Afrique ou bien les pays, comme la Chine aussi ils ont le même système que les Africains. On donne le nom avant de donner le prénom. Ce qui fait que ces gens-là réfléchissent d'abord en groupe. C'est-à-dire, quel est l'intérêt du peuple avant mon intérêt individuel? Dans les autres pays, quel est mon intérêt avant l'intérêt de la nation? Nous au début, on était très communautaires. Mais depuis l'instant où on a adopté le français et la culture française, sans qu'on se rende compte, l'individualisme vocal est venu parce qu'on s'est identifié quelque part à la France. Ça veut dire que même si c'est nos pièces d'identité, on écrit le nom avant le prénom, mais quand on dit prénom, là, vous savez que ça veut dire premier nom. Prénom, c'est le diminutif de premier nom. En fait, dès l'instant où on écrit ça prénom, pour nous, ça veut dire que, quand je le prononce prénom Mohamed, ça veut dire que, même si j'ai dit Sanogo Mohamed, on dit ton nom, je mets Sanogo, mon prénom. Je suis en train de dire dans mon cerveau, mon premier nom, avant Sanogo, mon nom de la famille là, c'est Mohamed. Dans mon esprit, cette identité là m'amène à penser à moi avant de penser au groupe. Ce qui fait que quand les gens aujourd'hui, parce que on a adopté la nation française, est-ce que vous me suivez? Donc aujourd'hui, naturellement, sans qu'on se soit rendu compte, on se comporte, pour nous d'abord, c'est l'individu avant le groupe. Quand j'arrive à un programme de prière, qu'est-ce que je gagne? Avant de savoir qu'est-ce que l'église gagne. Ça vient de la culture française. Alléluia. Alléluia. Mon bonheur est supérieur au bonheur du groupe. Et quand vous remontez encore toujours sur votre pièce d'identité, avant même de donner vos noms, si les papiers en main, République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si tu veux trouver l'individu qu'on appelle Mohamed Yérénian, il faut aller d'abord en Côte d'Ivoire. Donc, son premier élément d'identité, notre premier élément d'identité, ce n'est pas d'abord notre prénom. C'est dans quel pays est-ce que nous nous trouvons. Maintenant, en Côte d'Ivoire. Avant, on pouvait même dire, on mettait même l'ethnie. Maintenant, on a enlevé ça. C'est bien. Alléluia. En Côte d'Ivoire, tu vas trouver un individu qu'on appelle Sanogo Mohamed, fils de Tant et de. Et quand tu as fini d'identifier, alors tu arrives à identifier un individu de sexe masculin. Donc, on donne tous ces détails-là. Ça l'identifie. Maintenant, comme on est quand même nombreux, on te dit de mettre ton empreinte. Donc, quand tu as mis ton empreinte digitale, vraiment, on est sûr à 1000% qu'on est tombé sur la bonne personne. L'exemple que je viens de vous montrer tout de suite par rapport à l'influence de la France qui, en changeant notre langage, en travaillant notre culture, sans s'en rendre compte, nous a donné une nouvelle identité. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si en nous, nous avons deux identités. Une identité qui vient de notre tribu, qui vient de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais quelque part aussi une identité qui est liée à la France, parce que c'est le pays qui nous a colonisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors je vous ai montré que vous le vouliez ou pas, le nom que vous vous donnez ou bien l'identité, parce que c'est pas trop la prononciation. L'identité donc te donne une certaine croyance et par conséquent une certaine limite. Elle te donne une capacité, elle te donne des qualités et des défauts qui sont liés premièrement au pays, à la nation dans laquelle tu te trouves. Ainsi donc, si quelqu'un dans son esprit se voit profondément quand il demande qui tu es sur le plan de la nation. Prenons même la Côte d'Ivoire. Il y a un moment donné, compte tenu du développement économique de la Côte d'Ivoire par rapport aux régions, aux pays de la sous-région, les Ivoiriens avaient une certaine fierté. Donc quand on dit, dans la sous-région, quand on dit Ivoirien, on voit orgueilleux. Puis, il se passe que donc, en Côte d'Ivoire, pratiquement tous les Ivoiriens ont un problème avec l'orgueil. C'est-à-dire, on a une fierté nationale là. Ne t'amuse pas avec ça. Donc quand on arrive comme ça, on dit, d'où tu viens? Je suis de Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Tu vois, ça nous donne une certaine fierté. Mais sans nous en rendre compte, ça vous donne, quand je m'identifie à la Côte d'Ivoire, ça me donne en même temps les qualités de la Côte d'Ivoire et aussi les faiblesses de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un me suit? Par exemple, il y a des ethnies où on ment. Il y a des ethnies. Non mais c'est vrai, ils ont des qualités, mais il y a des ethnies. Les garçons, ils aiment les femmes comme pas possible. Les femmes aussi, il y a des ethnies comme ça. Ils ont des qualités, mais ils ont un défaut, ils ont un problème avec le sexe, c'est leur ethnie. Donc, dans ta tête là, quand tu viens, et puis tu dis, je suis de telle ethnie, et tu t'attribues, tu t'identifies à cette ethnie, dès que l'instant tu t'identifies à cette ethnie là, il se trouve que les qualités, les capacités, les défauts, les qualités aussi, toutes ces choses là, viennent entrer en toi. Et ce sont ces capacités là donc qui te limitent, en ce qui concerne ta foi. Alléluia. Autrement, c'est ce que je disais la dernière fois que, mais, si tu dis que tu es Djoula, si, bon, moi, je suis Sounoufou, si tu dis que tu es Sounoufou, mais un Sounoufou peut pas marcher sur l'eau. Un Sounoufou peut pas parler en arabe et l'arbre va sécher. Un Sounoufou peut pas. Donc, quand Dieu me dit, je vais faire des prodiges, j'ai des problèmes pour accepter parce que je suis Sounoufou. On dit, en mon nom, je te dis, les mêmes miracles que j'ai produits, tu vas les faire. Comme dans mon esprit, je m'identifie en tant que Sounoufou, mais un Sounoufou, il peut pas. Je sais pas, marcher sur l'eau, il peut pas faire de prodiges. Donc, j'ai beau dire dans ma bouche, je crois, mais dans mes actes, c'est difficile pour moi de saisir à cause de mon identité. Quelqu'un me suit? Alléluia. 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 Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu voulant permettre à Abraham d'engendrer une génération puissante, va lui demander, quitte ton pays. Quitter le pays, ça ne veut pas dire déménager physiquement de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout simplement, parce que le pays, ça veut dire ethnie, ça veut dire une nation. Ça veut dire dans ton cœur. Il faut que profondément, tu ne te limites plus au pays dans lequel tu es né et que tu puisses sentir profondément que tu es fils, que tu es fille, que tu es citoyen, citoyenne du royaume. Quand tu vas commencer à t'identifier, quand c'est quelque chose que tu vas prononcer tout le temps, quand tu vas commencer à avoir ces paroles, ta manière même de penser, ta façon même de te voir, va changer. Amen. Et de facto, donc, tes pouvoirs, tes capacités, tes aptitudes, ce que tu peux faire en tant que quelqu'un de céleste, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, ça va faire une différence. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Et puis il lui dit encore, quitte ta patrie. Donc le pays, sur la pièce d'identité, c'est ce qui est marqué République de Côte d'Ivoire. Amen. Deuxièmement, avant d'attaquer mon prénom, on attaque ici en Côte d'Ivoire, on parle d'abord de mon nom. Amen. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie. En disant quitte ta patrie, le mot patrie vient d'un mot latin qui signifie pater. Est-ce qu'on me suit? À la même image que le pays, la patrie ou le pater, le père, a aussi une incidence directe. Revenons donc dans notre Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 11. Il est dit, verset 31, Térakh prit Abraham son fils, Lot fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans. Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Alléluia. On voit donc ici Abraham qui, pour entrer dans sa phase réelle de bénédiction, devrait quitter. Et je vous ai dit la dernière fois, on a commencé donc à lire Genèse chapitre 11 à partir du verset 31, je vous ai dit la dernière fois que quand vous lisez selon Actes chapitre 7 à partir du verset 1, le verset 31 où il a dit « Térakh prit Abraham ». En réalité, quand vous lisez Actes chapitre 7 à partir du verset 1, c'est Abraham qui avait reçu une révélation. Et sur la base de cette révélation, il est parti avec son père et ils se sont arrêtés à Charan. Donc, Dieu a parlé deux fois à Abraham. En Genèse 11, au verset 31, dans cette période-là, et puis en Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Vous voyez cette confirmation donc dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 1, que Dieu a parlé deux fois à Abraham. Une fois quand il était en Mésopotamie, et l'autre fois, la deuxième fois, lorsqu'il habitait la ville de Charan. Donc, physiquement, sous la demande de Dieu, Abraham va quitter son pays. Et dimanche, mardi dernier, nous avons parlé donc de la réelle conversion, du fait de se donner à Jésus, on a lancé l'appel, et des personnes ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai dit aussi que c'est aussi ça quitter le pays. Parce que le pays, de manière spirituelle, ça parle aussi donc du monde dans lequel tu as grandi, n'est-ce pas? Dans notre siècle actuel, notre nation actuelle, c'est le péché, l'abomination, le mal, les critiques, les haines. Et Jésus-Christ veut nous délivrer de cela. Donc, en donnant notre vie à Jésus, sincèrement, nous quittons notre pays. Alléluia. Alléluia. Jésus pouvait dire dans un passage que ceux qui sont passés par les eaux du baptême, il dit, pour nous maintenant qui sommes en Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont passés par les eaux du baptême, en nous, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de tout ceci. Donc pour Dieu, lorsque vous êtes réellement convertis, il n'y a plus d'identité nationale. Vous me suivez? Quand vous passez par les eaux du baptême, quand vous acceptez Jésus, vous ne devez plus, peut-être pour ne pas choquer la terre, vous allez dire aux gens, mon vieil homme ou bien ma vieille nature vient de la Côte d'Ivoire, vient de tel pays. Mais il faut que, profondément, après le jour du baptême, que vous compreniez que dans l'église, il n'y a pas Bété, Djoula, Baoulé, Agni, il n'y a pas les Français, il n'y a pas les Américains. Tout ça là, c'est fini. Et vous devez le ressentir profondément. Alléluia. Alléluia. Ceux qui créent des problèmes dans l'église, c'est ceux qui s'identifient encore à leur nation d'origine. Moi, j'ai vu des gens, ils sont dans leur pays, les gens, on escroque et puis on vole grave. Mais le gars, même quand il te dit qu'il a donné sa vie à Jésus, tu as peur. Quand il te dit, de quel pays tu viens? Quand il a prononcé le pays, tu dis, les gars de cet endroit-là, faire attention, ils sont dangereux. S'il est vraiment né de nouveau, s'il a quitté le pays dans son esprit, il n'aura aucun problème à ce niveau. Amen. Quitter donc son, il dit aussi à Abraham, quitte ta patrie. Alléluia. Et la patrie, ça veut dire aussi en quelque sorte, quitte ton père. Quitte ton père. Pour mieux illustrer cela, allons dans le livre de Jean, chapitre 8, Galates 3, 28. On va lire cela rapidement. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Alléluia. Pour expliquer que par la conversion, il n'y a plus de barrière nationale. Alléluia. Jean chapitre 8. Alléluia. Ok, Jean le chapitre 8 à partir du verset 30. Suivons ce passage très intéressant. Il a dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Notez bien, plusieurs ont cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Notez très bien, ces gens dont nous sommes en train de parler ont cru en Jésus. Alléluia. Mais vous allez voir que dans la suite, donc je vais dire que croire en Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est en quelque sorte quitter le pays. C'est pas ça, hein? C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a quitté son pays. Mais lorsqu'Abraham a quitté son pays, la Bible dit qu'il est parti avec son père qu'on appelle Térakh. Et avec Térakh, son père, ils sont partis habiter dans un autre pays qu'on appelle Charan. Dieu avait dit à Abraham, va jusque à Canaan. Mais Abraham n'est pas arrivé à Canaan parce qu'en chemin, il s'est arrêté à Charan. Et la Bible dit qu'il est resté très longtemps dans la ville qu'on appelle Charan. Et même à Charan, il a prospéré, il a commencé à avoir la bénédiction. Mais Abraham a commencé à avoir certes de l'argent à Charan. Certes, il a commencé à avoir certaines faveurs financières et matérielles, mais il n'était pas entré dans sa vision. Il n'était pas entré dans sa destinée. Et je vous ai dit la dernière fois que Térakh, en hébreu, ça signifie retard. Le nom de papa d'Abraham, là, c'est qu'il faut, l'honorer. Alléluia. Il y a une différence entre honore ton père et ta mère et puis quitte ton père. Vous me suivez, non? Quitter, c'est une affaire de mentalité. Il faut quitter. Mais Dieu demande toujours de les honorer. Alléluia. Honorer, c'est respecter. Mais il faut quitter. C'est pourquoi, même pour entrer pleinement dans le mariage, Dieu dit il faut quitter. Tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction du mariage si tu ne quittes pas ton père et ta mère. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour qu'elle devienne une seule chair. Tu ne peux pas produire, manifester ta destinée. Tu ne peux pas sentir ce que Dieu a déposé en toi si tu ne quittes pas ton père. Tant que tu seras rattaché à Térakh, ta vie chrétienne sera une vie retardée. Ou bien tu seras en retard en tout. Quand Térakh est dans ta vie, Térakh te met en retard. Alléluia. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils vivent. Dieu a dit, quitte ton père, quitte ton pater, quitte ta patrie. Ils disent non, que de toute façon, on va se convertir ensemble. Et ils ont pris Térakh avec eux. Mais quand Térakh est avec vous, vous ne pouvez pas arriver à Canaan. Au lieu d'arriver à Canaan, selon la parole de Dieu, Abraham s'arrête à Charan. Or, le problème de Térakh, c'est que Térakh, c'est un vieux coriace. La Bible dit que Térakh est mort à 250 combien d'années là? Mais il vieillit. Abraham a commencé à manifester, à rentrer sur le chemin de sa destinée à l'âge de 75 ans. Moi, je pense que lorsqu'Abraham, quand Dieu avait parlé à Abraham, peut-être qu'il avait la trentaine. Parce que tel qu'il est décrit, qu'il a duré à Charan jusqu'à la mort de son papa. C'est-à-dire, il était là. Et Térakh, ça part de la patrie. Ça veut dire, c'est un attachement émotionnel. Quand on dit un patriote là, c'est quelqu'un qui est attaché émotionnellement à ses origines. C'est ce qu'on dit un patriote. Pas ça? Tu peux être ivoirien, mais ne pas être patriote. Vous comprenez, non? Mais quand tu dis déjà que tu es ivoirien, ça te limite au nom ivoirien. C'est ce qu'on a appris à quitter. Alléluia. Mais il y a aussi le caractère émotionnel. Le caractère émotionnel, c'est ce qu'on manifeste avec le nom patrie, qui veut dire aussi père. Alléluia. Alléluia. Et Abraham, donc, va rester avec son Térakh, avec Térakh. Aujourd'hui, mon frère, tu dois être délivré de Térakh. Parce que tu ne peux pas rentrer dans ton héritage tant que Térakh est vivant. Donc, soit tu vas attendre, parce que Térakh, il vieillit trop. Soit tu vas attendre que Térakh de lui-même meure à 255 ans, ou toi-même, tu vas finir avec Térakh. On n'a pas dit de le tuer, on dit qu'il faut le quitter. Alléluia. Alléluia. Alors, Jean chapitre 8, on va voir qu'il s'agit d'une affaire de père ici. Donc, ces gens qui ont écouté Jésus-Christ ont cru en lui. Ils ont décidé de croire, d'accepter Jésus. Donc, maintenant au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Notez bien. Donc, la suite du message est adressée à qui? Aux Juifs qui avaient fait quoi? Qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notez bien ceci encore. Je veux que vous notiez les points. Ces gens-là ont cru en Jésus, mais ils n'étaient pas encore des disciples. La notion de disciple parle de discipline intérieure. On a déjà parlé beaucoup de disciples là. Amen. Dans la suite du message, nous reviendrons là-dessus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la parole, c'est différent d'être de passage dans la parole. Il y a certaines personnes qui sont de passage. Demeurer dans la parole, c'est quelqu'un qui habite dans la parole. qui habite dans la parole. Et Dieu leur dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Autrement dit, le fait que vous ayez déjà cru en Jésus ne vous donne pas de connaître encore la vérité. Ceux qui croient en Jésus ne connaissent pas encore la vérité. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai dit dimanche dernier qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai dans le ciel. Quand ce qui est vrai dans le ciel se manifeste, cette chose-là a une incidence directe sur la réalité. Autrement dit, la réalité, ça veut dire ton quotidien peut être transformé par la vérité qui est du monde invisible. Amen. Et Dieu leur dit, il y a une clé. Vous allez connaître la vérité à condition que vous demeurez dans ma parole. Donc vous connaîtrez la vérité 32, pardon, et la vérité vous affranchira. Donc, ils vont être libérés. Amen. Mais libérés de quoi? Libérés de quoi? C'est libéré de, vous allez voir que c'est libéré de terrain. Ce n'est pas un problème de conversion, mais c'est libéré du terrain. Et il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Oh Dieu. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus va leur donner une parole très importante au verset 34. Il dit, vous avez cru en moi, mais vous êtes encore esclaves. C'est ça? Et il dit, mais nous on n'est pas des esclaves. On descend d'Abraham. Ça veut dire, nous sommes des croyants. Étant donné qu'Abraham se définit comme étant le père de la foi. Autrement dit, c'est ce que beaucoup sont en train de dire, je suis chrétien, baptisé, né de nouveau. Diplômé, confirmé. J'ai fait l'école biblique des temps. Je vais à vase d'honneur, chrétien, vase d'honneur. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais, il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave n'est pas toujours dans la maison. Vous savez, dans la maison de Dieu, vous avez deux groupes de personnes. Il y a ceux qu'on appelle les esclaves. Il y a ceux que Dieu appelle les fils. Il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Ça veut dire que, quand même, l'esclave a demeuré un moment. Quand la Bible parle d'esclave, ce ne sont pas les païens. C'est un type de croyant, parce que ceux-là, ils ont cru en Jésus. C'est un type de croyant qui ne sont pas délivrés vraiment de leur vieil homme. Ils en sont encore esclaves. Dieu dit, ces gens-là ne vont pas demeurer dans la maison. C'est-à-dire que, tôt ou tard, ils vont finir par rétrograder, ou bien même s'ils continuent à rester dans l'église, ils vont se comporter bizarrement. Il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. La maison dont il est question, c'est le royaume de Dieu. La maison dont il est question, ce sont les faveurs du royaume. Il y en a qui sont là dans ce lieu, qui peut-être ont cru en Jésus, qui croient que Jésus est puissant, qui entendent cette parole que je dis, mais qui sont encore des esclaves. Il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure pour toujours. Le but de la parole de Dieu, mon frère, c'est que tu deviennes fils. Amen. Parce que c'est le fils de Dieu qui est divin. Et c'est celui qui est divin qui manifeste ce que son père manifeste. Or, si tu es un esclave, tu as des pouvoirs peut-être. Quand vous avez un esclave dans la maison, un boy, il peut faire des choses, mais il n'est pas héritier des promesses. Parce qu'il est esclave. Donc tout ce que je suis en train de vous enseigner, tout ce que vous pouvez posséder par la foi, si vous êtes esclave, vous ne pourrez l'utiliser qu'un moment. Parce que vous n'allez pas demeurer toujours dans la maison. Donc tu vas prier un jour, ta foi va marcher et puis ça va être oxyant. Un moment, tu vas être découragé de la foi chrétienne et tu vas carrément abandonner pour te livrer au monde. Parce que tu pries, tu n'es pas exaucé et tu n'es pas libre, tu n'es pas épanoui dans la maison de Dieu, tout simplement parce que tu es esclave. Jésus va leur dire, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Jésus leur donne le témoignage dans les versets précédents que, de manière généalogique, vous êtes des Hébreux. Vous descendez d'Abraham. Mais il leur dit, il va leur montrer après que Abraham n'est pas leur père. Vous me suivez? Quand la Bible dit du père, là, je parle pas de ton papa qui est à la maison. Je parle de celui en qui tu crois. Jésus leur dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Verset 39, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham. Regardez l'introduction. En parenthèse, au verset 37, il leur a dit, je sais que vous descendez d'Abraham. Donc, la descendance dont il est question maintenant, c'est pas celle qui est physique, mes frères. Amen. Nous parlons d'une descendance spirituelle. Il dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œufs de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Eux-mêmes de leur bouche, ils disent que Dieu est leur père. Là, c'est ceux qui croient. Les esclaves aussi disent les mêmes choses. On est là, hein, tout le monde dit, qui est ton Seigneur? Jésus. Qui est ton père? Dieu.
Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Verset 48, les Juifs répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Mes amis, quand on a commencé, on a bien établi un préalable. On dit, Jésus parla à qui? À ceux qui avaient cru en lui. Donc ceux qui ont cru en lui, là, maintenant il dit que Jésus est possédé. Au début, ils ont cru, mais quand Jésus a commencé à leur dire deux vérités, on dit, mais toi-même là, tu es possédé. Tu as un démon. Tu es un Samaritain. Jésus leur répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous, vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Ah, mon frère, l'identité. Qui prétends-tu être? Identité. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût. Oh, alléluia. Je suis. Là-dessus, il prit des pierres. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est pas la peine. Le gars, là, il est fou. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Mes amis, comprenez-moi bien. Nous sommes dans une discussion avec Jésus. Ces gens-là avaient une croyance en ce qui concerne leur paternité. Mais dans leurs actes et dans leur vie de tous les jours, ils se comportaient selon leur vrai père. Et Christ leur a expliqué, quand on parle de père, ce n'est pas un problème de généalogie. De manière généalogique, vous descendez d'Abraham. Mais Abraham n'est pas votre père. Alléluia. Alléluia. Abraham n'est pas votre père. Votre père, en réalité, ce que je veux comprendre, c'est que ton père, celui que Dieu appelle ton père, ce n'est pas d'abord ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Jésus a dit, si vous étiez fils de Dieu, vous allez croire en mes paroles. Il dit, vous ne recevez pas mes paroles, parce que vous n'appartenez pas. Nous sommes en train de prêcher la parole. Il y a des personnes qui sont assises dans l'église, mais qui ne le reçoivent pas, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ont un autre père. Ils entendent ces paroles, mais elles ne transforment pas leur vie. Elles ne changent pas leur vie. Tout ce que nous pouvons dire de profond, de fort dans cette église, ils viennent peut-être parce que c'est joli, parce que c'est beau, mais leur vie n'est pas transformée. Ils prononcent le nom de Jésus debout de leurs lèvres, mais dans leur attitude, ils ne sont pas des fils de Dieu. Or, c'est dans la dimension de fils de Dieu qu'on est capable de parler aux choses pour que les choses changent, les choses bougent. La dimension de la foi dont je suis en train de parler dimanche, c'est vrai que les païens peuvent quelque peu l'utiliser, mais la réalité, c'est que les païens peuvent faire tout ce qu'ils feront comme prodige et miracle par le principe de la foi que j'expliquais, n'est-ce pas? C'est juste d'avoir des choses naturelles. Vous comprenez? Il ne peut pas rentrer dans l'extraordinaire. Je dis, quand les gens même, ils ont rêvé. Dans le monde là, les mystiques, tout ça là, ils sont limités. Ils sont limités parce que ils appartiennent au diable. Et que leur pouvoir n'est pas éternel. C'est Dieu qui avait donné ça à l'homme initialement. Mais parce qu'ils se sont déconnectés de Dieu. C'est un peu comme une feuille que vous retirez d'un arbre. Elle ne sèche pas immédiatement. Elle prend le temps. Ces gens-là encore continuent à sentir de l'exaucement ou bien des choses qui arrivent dans leur vie. Pas parce que Dieu est encore en eux. Mais tout simplement parce que la feuille prend le temps de sécher. Alléluia. Mais ils ne sont plus connectés. Ce que nous prêchons, ce n'est pas ce que les Écritures disent. Moi, je vous parle du Dieu vivant, du Dieu créateur, du Dieu puissant. Quand Dieu vous dit que si vous ne comprenez pas que vous, Dieu est votre Père et que vous êtes fils de Dieu, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Quand je dis vous êtes fils de Dieu, ils n'arrivent pas à l'accepter. Quand je dis vous êtes divin, certains se lèvent ici, on dit non, parce que ça nous raconte des hérésies. Il dit que nous sommes Dieu. Ces gens qui parlent comme ça, ils ont des problèmes pour accepter la définition de fils de Dieu. Et ce sont les mêmes gens qui sont dans l'église et qui prononcent le nom de Dieu, qui prennent des pierres et qui les lancent contre Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce Père premier que nous avons acquis dans le monde, qui nous a donné notre façon de marcher, notre façon d'être. Ça veut dire quoi? Parce que quand Jésus parle ici, il dit, vous n'êtes pas fils d'Abraham parce que vous ne recevez pas les paroles. Donc, c'est celui de qui nous recevons les paroles qui est notre Père. Abraham a été en retard dans sa vie parce qu'il écoutait et il recevait les paroles d'un monsieur qu'on appelle Térak. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays. Mais quand vous lisez Genèse 11:1, on dit que c'est Térak qui a pris Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Ce n'est pas Térak qui a suivi Abraham. Mais la Bible dit c'est Térak qui l'a pris. Ça veut dire, c'est Térak qui a pris Abraham. Son père, le retard là, c'est lui qui l'a fait avancer vers sa destinée. Est-ce que vous voulez me comprendre? Son père, Térak, a fait avancer Abraham sur le chemin de sa destinée. Il y a en vous, écoutez-moi bien, il y a en certains parmi nous, certaines croyances que vous croyez être spirituelles comme ces juifs, mais qui ne sont pas de Dieu, qui vous conduisent dans votre marche avec le Seigneur. Mais ces croyances-là sont limitées et vous empêchent d'entrer dans vos promesses et elles sont dans votre vie des Térak. Et Dieu dit, tant que vous serez esclave de Térak, vous ne pouvez pas jouir de l'héritage de la maison. Vous n'allez pas rester tout le temps dans la maison. Et à un moment donné, vous finirez par me lancer des pierres. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi Dieu te dit, quitte ta patrie, ça veut dire quitte Térak. Tu as quitté ton pays, tu es passé par les eaux du baptême, tu as cru en Jésus. Mais quitte Térak. Va voir. Aujourd'hui, on ne le fera pas la prochaine fois. Alléluia. Alléluia. Seulement, les exercices que je vais vous donner pour la suite, c'est sur cette base de ce que je viens d'expliquer. Rentrez en vous-même. Et puis, qui est votre père? Ton père, ça peut être ton père génétique. Vous savez, la nation, c'est quelque chose dans lequel tu es né. C'est un environnement dans lequel tu es né. Et des croyances, c'est pas que tu les as acceptées. Tu as été éduqué. Par contre, ton père, ce sont des paroles et des croyances que tu portes, que tu as acceptées. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, le mot patrie, ça parle d'un attachement émotionnel. Or, l'attachement émotionnel est quelque peu volontaire. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, quand on parle de patrie ou de père, ça parle de choses, de croyances, d'habitudes que vous avez contractées, que vous avez acceptées, souvent consciemment ou inconsciemment, mais sans vous en rendre compte qui détermine votre vie. Le pays, c'est pas des choses que vous avez forcément acceptées. C'est un environnement dans lequel vous êtes né et vous avez pris naturellement la coutume, les habitudes, les forces, les faiblesses de ce pays. Pas que forcément vous y croyez, que vous êtes forcément attaché, mais vous réagissez de manière inconsciente en fonction de ce type de nationalité-là que vous avez. Dieu te demande de quitter cela. Et il y a Térak qui est le père. Là, c'est une forme de parole. Ça peut être matérialisé par des individus, ça peut être matérialisé par des personnes. Jésus a dit à ses disciples, n'appelez personne sur la terre père. Vous avez un seul père. Jésus était-il en train de dire dans cette parole-là de réunir nos papas? Non. Il n'a pas dit, vous avez plusieurs pères, dont moi, Dieu, et puis vos parents génétiques. Non. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Votre seul père, c'est Dieu. Et vous allez voir que si vous comprenez profondément la parole de Jésus, Jésus ne veut même pas, Dieu ne veut même pas qu'on identifie notre père. Même par exemple dans une personne comme David. Ouais, non. David, Abraham, quand il parle de Abraham est notre père, ce n'est pas parenté génétique. Parce que, je vous dis simplement, si vous vous identifiez à David, que dans ton esprit tu dis, je suis tellement attaché à David, au grand roi David, David est mon père, David est mon père, sans t'en rendre compte, dans ta vie, tu peux accepter la possibilité de tomber dans l'adultère, dans le péché. Vous me comprenez, non? Quand la tentation va venir, tu as dit, même David a glissé. Donc, quelque part, ça me donne un droit de glisser aussi. Si vous identifiez votre père, quand je parle de père spirituel, au passé Sanogo, sans vous en rendre compte, mes qualités, vous allez les prendre, mais mes défauts aussi. Vous avez un seul père. Lui, il est parfait. Alléluia.
Alléluia.
Lui, il est immuable. Et quand je commence à m'identifier à lui, à croire en lui, ça fait la différence entre les personnes qui viennent dans l'église, entre ceux qu'on appelle les esclaves et ceux qu'on appelle les fils. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Alléluia.
Tu vas prendre le temps dans tes notes pour savoir, mais qui est mon père? Je n'ai pas tout dit en ce qui concerne le père, en ce qui concerne quitter la patrie. Je le ferai la prochaine fois. Mais je veux que vous commenciez à travailler là-dessus. Frère, si nous suivons cette formation, si nous laissons Dieu nous transformer, vous allez voir, vous êtes différent. Vous allez voir que même l'exactitude comme je suis susceptible, je suis un peu vexé, ça vient de ton père. Oui. Les complexes d'infériorité, de supériorité, ça vient de ton père. Ce sont des paroles que tu as acceptées quelque part.
Alléluia.
La manière dont tu te considères une belle personne comme une personne qui est laide, ça vient de ton père. Tu as accepté une parole dans laquelle les belles personnes, vous savez, qui sont en grand détail et qui ont un visage comme ça. Vous allez voir que la manière dont même vous vous identifiez vient de votre père. Quand je dis des pères, ça veut dire des paroles que vous avez acceptées, que ton père génétique t'a dit, que dans ton village on t'a dit, et puis tu as fini par accepter sur toi-même. Tu as fini par recevoir à l'exercice dans ton cœur. Il dit, vous avez pour père le diable. Parce que vous avez accepté les paroles du diable. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous descendez génétiquement d'Abraham. Quand je parle de père, c'est rattaché avec le propos que vous avez reçu. Et ceux que vous avez acceptés sont des propos mensongers. Ce sont des paroles du diable. C'est la raison pour laquelle vous êtes esclaves. Mais moi, Dieu, je vous dis, si vous demeurez dans ma parole, je vais vous libérer. Ces gens-là ont refusé cela. Ils ont préféré garder leur identité par rapport aux paroles mensongères qu'ils avaient entendues depuis l'origine, qui déterminaient leur attitude, leur comportement. Même s'ils étaient des croyants, ils ne marchaient pas comme Dieu voulait qu'ils marchent, tout simplement parce que pour origine dans leur cœur, ils avaient d'autres croyances, d'autres pensées, d'autres aptitudes, d'autres forces qui venaient d'ailleurs, mais qui venaient du diable. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Ensemble, baissons nos têtes de parole à Dieu. Réfléchis en priant. Qui est ton père? Quelles sont les paroles du mensonge que tu as acceptées?
Si ce message vous a édifié, procurez-vous d'autres messages sur des thèmes tout aussi enrichissants. Au revoir et à un autre message.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.